VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
19h30 à Bamako, 20h30 à Niamey, 21h30 à Johannesburg. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa succède à Jacob Zuma à la tête de l'ANC. En RDC, l'opposition appelle à manifester une nouvelle fois demain mardi pour réclamer le départ du président Kabila. En Libye, le maire de Misrata a été enlevé et tué. Et puis Donald Trump a prononcé, est en train à l'instant même de prononcer son discours sur sa stratégie de sécurité nationale. Il dresse les priorités des États-Unis. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. En Afrique du Sud, l'attente a été longue, mais le nom du vainqueur de l'élection à la présidence de l'ANC est connu. Cyril Ramaphosa, vice-président, devient le nouveau chef de l'ANC. Il a battu Nkosana Dlamini Zuma, l'ex-épouse du président sud-africain. Les précisions de Jacques Aristide.
We declare Comrade Cyril Ramaphosa as the new president of the African National Congress.
Cris de joie pris en suspense intenable, les résultats annoncés par la commission électorale ne sont pas une surprise totale. Cyril Ramaphosa a été désigné par une majorité des 4776 délégués réunis à Johannesburg. Il a obtenu 2440 voix contre un peu plus de 2200 pour Nkosazana Dlamini Zuma, ancien dirigeant syndical et l'une des plus grandes fortunes du pays. Ramaphosa a été appuyé par les vétérans de la lutte anti-apartheid, les syndicats et les organisations de la société civile. Il devrait en toute logique succéder à Jacob Zuma à la tête du pays en 2019. Pour ses partisans, Cyril Ramaphosa, qui a multiplié les critiques contre le gouvernement, est le mieux placé pour redresser une économie plombée par un taux de chômage de 28% et un abaissement des notations de crédit. Il sera secondé dans ses nouvelles fonctions par David Mabuza, qui devient vice-président de l'ANC. Le scrutin est perçu par de nombreux Sud-Africains comme l'événement politique le plus important depuis la fin de l'apartheid et l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en 1994.
Cette victoire est-elle une surprise? Pour une analyse, nous avons joint tout à l'heure à Pretoria le professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud.
Pour moi, ce n'est pas une surprise et beaucoup d'observateurs aussi s'attendaient à ce résultat. Monsieur Ramaphosa a continué la tradition de Nelson Mandela de proposer une politique d'inclusion et pas de division, une politique modérée et pas extrémiste. Ce qui est aussi très important, c'est que la procédure du congrès du parti était minutieuse. Alors ce sera un peu plus facile pour tout le monde d'accepter ce résultat.
Et comment va se passer la transition avec Jacob Zuma?
Bon, il y a un arrêt, il y a un jugement de la cour régionale de Gauteng que le directeur, le procureur de la République, doit être considéré comme non nommé et qu'une nouvelle personne doit être nommée qui certainement va procéder avec des charges de plus de 700 accusations de vol et de fraude contre Zuma qui va continuer, j'espère, dans le mois de février. Et alors ça offrira une opportunité à Zuma de négocier une démission.
Qu'est-ce qui va changer pour vous au niveau de l'ANC?
L'ANC va reprendre la tradition de 1996, une tradition d'une république inclusive et non raciale, non raciste, menée dans le progrès de l'industrialisation. Et je pense que ce sera plutôt une idéologie de la moitié gauche, une sociologie peut-être de social-démocrate. Il y aura évidemment une faction de gauche, une faction plutôt socialiste ou même communiste, mais elle n'aura pas tellement d'influence, je suppose.
C'était le professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. En en République démocratique du Congo, l'opposition a appelé ses partisans à manifester une nouvelle fois demain pour réclamer le départ du président Joseph Kabila, en dépit de l'interdiction des rassemblements par le pouvoir. Plus de détails avec Anastasie Tudiech.
Cette marche a pour objectif d'exiger la tenue des élections d'ici la fin de cette année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, a affirmé Augustin Kabuya, porte-parole de l'UDPS, parti historique de l'opposition. Selon l'accord conclu le 31 décembre 2016, des élections devaient avoir lieu au plus tard en décembre 2017. Sous pression internationale, les autorités ont publié le 5 novembre un calendrier fixant au 23 décembre 2018 la tenue de plusieurs scrutins, dont la présidentielle, pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Son second et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Le Rassemblement, une coalition de plusieurs partis et associations, demande le départ du président Kabila dès la fin de cette année, estimant qu'il n'a aucune volonté d'organiser des élections. Une frange de l'opposition réclame une transition sans Kabila. Le 30 novembre, les opposants avaient déjà tenté d'organiser des manifestations interdites par les autorités.
Et puis RDC toujours, deux personnes ont été tuées hier dans des violences communautaires entre Emma et l'Hindou dans l'Ituri, dans le nord-est du pays. Des conflits des terres seraient à la base de ce différend. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a ordonné le règlement de 2 mois d'arriéré de salaire de novembre et décembre 2013. L'annonce intervient après des négociations satisfaisantes avec le Fonds monétaire international. Fête nationale au Niger, un grand défilé militaire a été organisé à Tawa, à 400 km à l'ouest de Niamey, dans une zone où plusieurs attaques djihadistes ont eu lieu récemment. Un défilé sous très haute sécurité, puisque outre le président Mahamadou Issoufou, dont c'est la région natale, 4 autres chefs d'État ont fait le déplacement, dont ses homologues du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie. Au Zimbabwe, le général Constantino Chiwenga, le chef d'état-major de l'armée, va quitter ses fonctions et pourrait devenir, selon plusieurs sources, vice-président du pays. Cette annonce intervient quelques heures après l'annonce par l'armée de la fin officielle de l'intervention qui a précipité le mois dernier la fin du règne de l'ex-président Robert Mugabe. En Libye, Mohamed Echtewi, le maire de Misrata, a été enlevé, tué par balle par des inconnus à sa sortie de l'aéroport alors qu'il rentrait d'un voyage officiel en Turquie. L'hôpital de la ville a confirmé avoir reçu le corps du maire qui portait des impacts de balles. Et puis quelques 36 000 enfants migrants, dont 14 000 non accompagnés, ont besoin d'assistance en Libye, selon l'UNICEF et l'Organisation internationale pour les migrations, qui ont publié un communiqué à l'occasion de la Journée internationale des migrants aujourd'hui. En 2017, près de 15 000 enfants non accompagnés ont atteint l'Italie en traversant la Méditerranée depuis la Libye.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain a prononcé il y a quelques minutes à Washington un discours sur la stratégie des États-Unis en matière de sécurité nationale. Il a dévoilé un document qui passe en revue les dangers et les défis auxquels le pays fait face en donnant la priorité à son appel de mettre l'Amérique d'abord. Raissa Girondin.
I am proud to report that the entire world has heard the news and has already seen the signs. America is coming back, and America is coming back strong.
Donald Trump a décliné son célèbre slogan « L'Amérique d'abord ». Il dit considérer la Chine et la Russie comme les principaux adversaires des États-Unis sur l'échiquier mondial, des concurrents qui, à ses yeux, menacent directement la sécurité et la prospérité de son pays. Le président américain qui, du climat au libre-échange, a marqué une nette rupture avec son prédécesseur Barack Obama. Selon lui, la Chine et la Russie défient la puissance, l'influence et les intérêts de l'Amérique et essaient de saper la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Dans son discours, M. Trump a réaffirmé sa conviction que la compétitivité économique est un sujet de sécurité nationale. La meilleure arme dont nous disposons est la force de notre PIB, a-t-il ajouté. Au-delà de l'accent mis sur le combat économique, l'approche de Donald Trump se démarque de celle de ses prédécesseurs, démocrates comme républicains, sur la question de la sécurité intérieure et du contrôle aux frontières. Il est bien sûr revenu sur la construction d'un mur à la frontière sud des États-Unis.
Merci Raïssa. Les États-Unis qui ont mis lundi leur veto à une résolution introduite à l'ONU par l'Égypte pour révoquer la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. 14 des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté pour. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a dénoncé le veto américain à l'ONU. Cette décision américaine a déclenché des manifestations de colère des Palestiniens et dans le monde arabo-musulman, une réprobation quasi unanime de la communauté internationale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Au Sénégal, des jeunes misent sur la culture du riz ou des légumes pour faire fortune. Le riz est la céréale la plus consommée au Sénégal. Cette activité fait revenir à la terre certains jeunes migrants qui ont désormais accès à des semences adaptées et à cycles très courts, 80 jours entre le semis et la récolte. Le gouvernement, soutenu par le Fonds international de développement de l'agriculture FIDA, accompagne 120 jeunes cultivant des légumes sur une trentaine d'hectares à l'est du parc national du Delta du Saloum. La prochaine étape sera la transformation et l'agro-business. Le Gabon veut faire du secteur des mines un vecteur important de la relance économique. C'est pour restructurer et diversifier son économie, longtemps axée sur les ressources pétrolières. Pour exploiter ces ressources diamantaires dans le nord et le sud-est, Libreville a rejoint le processus de Kimberley qui fixe les conditions d'exportation des diamants, notamment la certification internationale. Enfin, aux États-Unis, l'aéroport d'Atlanta, qui est le plus fréquenté du monde, était paralysé ce dimanche par une panne d'électricité. Elle a affecté des centaines de vols et des milliers de passagers, provoquant l'annulation de 900 vols. La panne a également affecté d'autres aéroports, bloquant sur place 300 vols à destination d'Atlanta.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Les trois finalistes pour le titre de joueur africain de l'année 2017 sont...
Eh oui, les attaquants gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah sont les trois finalistes pour ce Ballon d'Or africain 2017. La Confédération africaine de football a dévoilé cette liste ce lundi. On rappelle que l'Algérien Riyad Mahrez avait été sacré joueur africain de l'année 2016. Ce dernier, qui évolue à Leicester, ne figure même pas dans la liste des 30 nominés. Le favori, c'est le meilleur buteur de la Première Ligue, l'Égyptien Mohamed Salah, qui flambe depuis le début de saison avec Liverpool. Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'une saison glorieuse avec Dortmund, semble également bien placé. On rappelle qu'il a terminé meilleur buteur de la Bundesliga avec 31 buts la saison dernière. Le troisième sur ce podium des prétendants, c'est le Sénégalais Sadio Mané qui joue aussi avec Liverpool.
Messi se prépare pour le Classico face au Real Madrid.
Le FC Barcelone dispose déjà de 11 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga et pourrait creuser un écart important pour le titre en cas de succès ce samedi dans le Classico. Déclaration aujourd'hui de l'attaquant vedette du FC Barcelone, Lionel Messi. Parler de plier le championnat, c'est très compliqué, mais c'est vrai que gagner là-bas nous permettrait de faire un pas de plus vers le titre. Mais il ne faut pas oublier également que l'Atlético Madrid n'est qu'à 6 points derrière nous, a ajouté le joueur argentin.
Manchester City évoque une prolongation de contrat avec Pep Guardiola.
Manchester City, qui aimerait s'attacher les services de son entraîneur Pep Guardiola à long terme, prévoit des discussions avec le technicien espagnol en fin de saison. Guardiola, 46 ans, est arrivé en 2016 en provenance du Bayern Munich avec un contrat initial de 3 ans à la clé. Après une première saison pas à la hauteur des attentes, Guardiola domine actuellement avec son équipe le championnat grâce à une série de records. 16 victoires d'affilée et 11 points d'avance sur Manchester United, le grand rival et le plus proche pour suivre.
Et bien sûr, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Encore un triple-double pour LeBron James qui permet à Cleveland de battre Washington 106 à 99. À Toronto, les Raptors ont confirmé leur bonne forme du moment et leur troisième place de la conférence Est. Net victoire sur Sacramento 108 à 93. Détroit domine Orlando 114-110. Tandis qu'Indiana s'est imposé à Brooklyn 109 à 97.
Merci Nicolas.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Ce lundi 18 décembre est la journée internationale des migrants. Depuis janvier, plus de 118 000 migrants ont rejoint l'Europe et 3 000 ont péri en Méditerranée. Pour faire le point, Ekia Badou a joint à Dakar Florence Kim du bureau de l'OIM.
Bien évidemment, avec les récents rapports qui sont sortis dans les médias, le public a pu découvrir qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui croupissaient dans des centres de rétention en Libye, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement contrôlés par les autorités libyennes elles-mêmes. Et nous avons procédé au rapatriement de plus de 15 000 personnes qui étaient en Libye et nous avons secouru plus de 2 000 personnes dans le désert du Niger, qui bien évidemment est encore plus meurtrier que la Méditerranée elle-même.
Dernier sommet, donc la Libye était présente, elle a parlé de pouvoir travailler main dans la main avec l'Union africaine. Est-ce que vous êtes optimiste pour les mois à venir pour l'évacuation et le démantèlement des différents centres de rétention en Libye?
Ce n'est pas simplement qu'une position, c'est qu'on le voit par les chiffres, il y a plus de 15 000 personnes qui ont pu être rapatriées et nous comptons en rapatrier à leur demande plus de 15 000 encore entre aujourd'hui et février. Donc ça nécessite une grande logistique et aussi du côté administratif. Donc bien évidemment que là, il y a pas un courage politique, mais une volonté politique de travailler ensemble avec l'Union européenne, l'Union africaine, ainsi que la Libye pour mettre fin à ces abus et ces violations des droits de l'homme qui sont honteuses.
Il y a aussi ce problème de nombreux migrants qui repartent dans les pays acceptant aussi finance l'aide au retour et qui repartent de nouveau.
Vous savez, dans un premier temps, c'est vrai que ces personnes qui demandent à l'OIM d'être rapatriées, demandent à être rapatriées chez elles, dans leur pays. Elles n'ont pas reçu d'argent à proprement parler, mais simplement d'un petit peu d'argent de poche, quelques dizaines d'euros, ça dépend des pays, pour pouvoir subvenir à leurs besoins immédiats et pour pouvoir prendre des transports pour rentrer jusqu'à leur destination finale. Si on n'offre pas une véritable alternative durable à la migration, bien évidemment, ces jeunes vont vouloir repartir. Ce qui a été mis en œuvre, notamment grâce au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, qui est financé par l'Union africaine et qui est mis en place par l'OIM. Lorsque la personne est rentrée chez elle, on offre les moyens pour qu'elle puisse recréer quelque chose, un petit business chez elle, dans son village. Mais à la différence des autres réintégrations qu'on avait pu pratiquer jusqu'à présent, elles sont désormais collectives. Une sorte d'économie locale, communautaire, pour que ces personnes-là voient qu'il y a quelque chose à faire dans leur propre pays.
La porte-parole de l'OIM à Dakar, Florence Kim. Au Togo, la coalition de l'opposition qui a manifesté samedi dernier se targue d'avoir mobilisé 1 million de personnes dans les rues de Lomé. Depuis 4 mois, des militants et sympathisants de l'opposition sont dans la rue, ce qui n'est pas sans incidence sur les activités économiques. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Tous les jours, qu'il y a marche, si vous prenez l'avenue de la Libération, si vous allez un peu dans la zone de Décon, les magasins sont fermés. Avons-nous besoin de briser le commerce?
C'est un constat sur lequel revient le ministre de la fonction publique Gilbert Barra qui se demande s'il faut encore continuer les manifestations du moment où les avancées sont faites pour aller au dialogue. Selon le gouvernement togolais, une journée de manifestation constitue un manque à gagner de plus de 500 millions de francs CFA pour le Togo. Depuis 4 mois, les activités économiques tournent au ralenti, comme l'affirment ces commerçantes.
Nous avons un sérieux souci. Tout ce que nous avons perdu, nous n'arrivons même pas à les quantifier. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour que nos activités n'en soient pas aussi atteintes? Donc aujourd'hui, nous réfléchissons vraiment.
C'est vraiment, vraiment déplorable parce que nous craignons fort que nos clients nous quittent.
Samedi dernier, la coalition de l'opposition a tenu sa 20e manifestation de rue depuis le 19 août 2017. Kofi Agbenou, devant sa boutique, légèrement ouverte à Dekon, dit comprendre le sens des manifestations.
Nous ne sommes pas là pour exposer ou bien pour vendre. Pour que la condition s'améliore, il faut que le pays même change d'abord. Et si on dit le pays change, il faut qu'on arrive à avoir une atmosphère plus tempérée. Et si les choses changent vraiment depuis le haut, nous aussi, notre quotidien aussi va changer.
Face aux accusations selon lesquelles la coalition de l'opposition veut asphyxier l'économie togolaise, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, se défend.
Dire que est-ce que nous avons décidé d'asphyxier l'économie togolaise? Non. Nous mobilisons les populations pour obtenir l'instauration de la démocratie et l'état des droits au Togo. Nous ne pouvons pas décider d'asphyxier l'économie togolaise. Nous sommes des Togolais. Ça fait des années, des dizaines d'années que l'économie togolaise est par terre.
Pour Olivier Kouami, de l'entente des spécialistes togolais en technologie de l'information et de la communication esthétique, il ne faut pas oublier les jours de blackout de l'Internet qui ont sérieusement porté un coup dur à l'économie du pays.
Selon une étude de l'ONG Access Now, une rupture d'Internet coûte à peu près 300 000 à 400 000 dollars US de pertes par jour pour un pays comme le Togo. 5 jours sans Internet, c'est 5 jours de léthargie. C'est 5 jours d'inactivité commerciale. C'est énorme.
Beaucoup d'opérateurs économiques souhaitent qu'une pause soit observée durant la période des fêtes, mais la coalition ne s'est pas encore prononcée clairement sur une tenue des manifestations lors des 15 prochains jours. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En République centrafricaine, plus d'une centaine de candidats des zones en proie aux violences composent depuis ce matin les épreuves du baccalauréat 2017 à Bangui et à Bria dans l'est du pays. Des examens organisés malgré l'opposition des députés des régions du centre-sud. Sur place à Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Un fait inédit, un baccalauréat national composé en trois phases. La première s'était déroulée en juillet dernier à Bangui et dans certaines régions du pays jugées calmes. En novembre dernier, c'était à Bangassou, dans le sud-est, que ces examens ont eu lieu. Aujourd'hui à Bangui, ce sont plus de 70 candidats, tous des déplacés des zones du centre-sud, du sud-est et de l'est qui composent. Marcel Kembe, président du centre.
Il s'agit des candidats venant des établissements suivants. Zemio, Bangassou, Kembe, Mobaye, Alindao et Bria. Il y a eu ceux qui se sont manifestés après l'appel du ministère aux fins de pouvoir organiser exceptionnellement pour eux cet examen. L'initiative prise par le gouvernement, c'est aux fins de pouvoir racheter ceux qui n'ayant pas été sur place quand on avait organisé l'examen à Bangassou et qui sont à Bangui.
Ce calendrier établi par le ministère de l'Éducation a surpris les députés des régions du centre-sud. Pour ces élus de la nation, il est inadmissible que le gouvernement ne prenne en compte qu'une partie des élèves de ces zones en proie aux violences. Maxime Garendo, porte-parole du collectif des députés de la Basse-Côte.
Nous, députés de la Basse-Côte, nous opposons fermement contre une telle décision qui n'est pas en faveur de notre population scolaire. Faut-il signaler que depuis quelques jours, la situation sécuritaire dans la préfecture de la Basse-Côte connaît quelques débuts d'amélioration. Il y a un sentiment favorable sur la question du redéploiement de l'autorité de l'État. Fort de tout cela, nous nous élevons contre cette décision et protestons énergiquement contre tout simulacre d'examen organisé à Bangui.
Pour le gouvernement, il était nécessaire de donner la chance à ces élèves qui ont fui leur localité et qui ont la possibilité de composer ici à Bangui. Moukadas Nour, ministre de l'enseignement primaire et secondaire.
C'est un examen national qui doit se faire à l'échelle nationale et auquel tous les candidats doivent participer. Ils doivent subir ces examens. Autrement dit, ça va être compliqué pour la suite. Parce que fin décembre, c'est déjà les premières évaluations qui vont démarrer dans tous nos établissements. Et ce serait difficile de rattraper. Aujourd'hui, les quelques élèves qui sont ici à Bangui, il est de notre devoir de leur donner cette chance-là. Surtout pour ce qui concerne Alindao et les autres localités. Mais pour Bria, il n'y a pas de problème à partir du moment où le prof du baccalauréat se fait de façon simultanée. C'est-à-dire en même temps que les élèves qui sont dans leur centre respectif subissent le baccalauréat, en même temps aussi, ici à Bangui, les ressortissants de ces centres-là, Bria, et aussi subissent l'épreuve de baccalauréat.
Ces épreuves lancées ce jeudi se déroulent simultanément à Bria dans l'est du pays. Elles prendront fin le jeudi prochain. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la maison de Nantes, Lionel Gaïma, à la console, Alfredo Santos, au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, bien sûr, sans oublier notre page Facebook. Restez avec nous tout de suite, le RM Show présenté par Roger Moutou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le groupe État islamique relèvera bientôt de l'histoire en Syrie et en Irak. Et alors qu'il se bat pour sa survie, il est primordial de le priver de toute possibilité de se regrouper et sévir à nouveau. Les groupes terroristes disposant de refuges sont à même d'exporter leur violence à travers le monde, frappant notre territoire et ceux de nos plus proches alliés. Nous avons vu Al-Qaïda le faire en Afghanistan dans les années 1990 jusqu'au 11 septembre. Et plus récemment, nous avons vu le groupe État islamique à l'œuvre en Irak et en Syrie, a déclaré l'ambassadeur itinérant américain et coordinateur de la lutte contre le terrorisme, Nathan Sells, devant une sous-commission des affaires étrangères du Sénat récemment. Les États-Unis œuvrent avec les partenaires en Afrique du Nord pour priver les terroristes de capacités opérationnelles dans les vastes zones du continent où l'autorité gouvernementale fait défaut. Pour réduire la menace posée par les groupes terroristes en Afrique du Nord, nous sommes en train d'aider les États fragiles à établir leurs capacités, de même qu'à mettre à contribution la haute expertise de ces États en matière de lutte contre le terrorisme. Nous voulons développer les capacités antiterroristes de nos partenaires africains jusqu'à un niveau où ils n'auraient besoin de l'assistance des États-Unis, a expliqué l'ambassadeur Sells. Les États-Unis travaillent avec leurs partenaires pour améliorer leurs capacités d'enquêter, de poursuivre et de juger les crimes terroristes. Pour empêcher les déplacements des terroristes, nous nous concentrons sur l'amélioration de la sécurité aux frontières à travers le partage d'informations, notamment en ce qui concerne les terroristes connus et présumés. Nos efforts pour empêcher la radicalisation et le recrutement d'individus par des groupes terroristes incluent la lutte contre la violente idéologie adoptée par ces groupes. Contrer la radicalisation d'une manière adaptée à chaque pays africain est une autre composante de l'approche globale dans la lutte contre le terrorisme, a souligné l'ambassadeur Sells. Nous avons entrepris ces efforts en coopération avec nos alliés européens, d'autres partenaires clés et les institutions internationales en vue d'amplifier leur impact. Les États-Unis utilisent une gamme d'outils et de ressources et collaborent étroitement avec le gouvernement d'Afrique du Nord et d'autres partenaires pour lutter de manière globale contre le terrorisme, a déclaré l'ambassadeur Sells. Notre programme de formation et nos ressources sont directement mises à la disposition des efforts de nos partenaires pour perturber les opérations terroristes, poursuivre les terroristes présumés et protéger les frontières.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.